Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi 8 octobre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. La République islamique d'Iran a prouvé qu'elle est l'alliée de France qui ne délaisse pas ses amis, a souligné le secrétaire général du Hezbollah et libanais au cours d'une rencontre à Beyrouth avec le chef de la diplomatie iranienne. Amir Abdullahian. L'Arabie saoudite est désormais sur le point d'accepter les conditions de la résistance yéménite pour mettre fin à la guerre contre le Yémen. Au Mali, le bilan de l'attaque terroriste contre l'armée malienne s'alourdit avec 16 soldats tués. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, est en visite au Liban. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a rencontré à Beyrouth le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdullahian, à la tête d'une délégation en présence de l'ambassadeur de l'Iran à Beyrouth pour discuter des derniers développements politiques au Liban et dans la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré lors de cette rencontre la constance de la position de Téhéran à l'égard du Liban et son soutien sur tous les niveaux. De son côté, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a remercié la délégation pour l'appui accordé par l'Iran à l'État, au peuple, à la résistance libanaise depuis les dernières décennies jusqu'à présent. L'Iran a prouvé qu'il est de l'allié franc qui ne délaisse pas ses amis en dépit des circonstances difficiles, a affirmé Saïd Hassan Nasrallah. Il a affiché son espoir quant à la sortie du Liban de cette épreuve avec la coopération de toutes les parties. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Rebda Amir Abdullahian, avait auparavant rencontré dès jeudi le président libanais Michel Aoun. Lors de cette rencontre, il avait affirmé que Téhéran se tient toujours aux côtés du Liban. Et lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue libanais, Amir Abdullahian avait indiqué que nous avons convenu de convoquer le comité économique libano-iranien, notant que l'Iran est totalement prêt à aider le Liban dans divers domaines. Le chef du Conseil stratégique des relations étrangères de l'Iran, ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Kamal Kharazi, a invité les responsables azéris à se débarrasser de l'illusion d'acheter la sécurité des forces étrangères, les appelant à s'appuyer sur leur propre peuple. Kharazi a déclaré que l'Azerbaïdjan a un peuple combattant et héroïque qui est capable de maintenir la sécurité de son pays par lui-même et ciment disant que leur recours à des étrangers pour assurer la sécurité est une solution illogique et déraisonnable. Kamal Kharazi a également souligné que l'entité sioniste qui se faufile en Azerbaïdjan a de nombreuses intentions et veut allumer les feux de la guerre dans la région, considérant que le gouvernement actuel en Azerbaïdjan commet une erreur stratégique. Le ministre libanais de l'énergie et de l'eau, Walid Fayaz, a examiné avec l'ambassadeur de Syrie au Liban, Ali Abdul Karim, la coopération dans le dossier de l'acheminement de gaz et d'électricité vers le Liban via la Syrie. Selon un communiqué publié par l'ambassade de Syrie à Beyrouth, les deux parties ont discuté des développements positifs et rapides dans la coordination entre la Syrie, le Liban, la Jordanie et l'Égypte à cet égard et des résultats de la dernière visite du ministre Fayaz en Égypte et de la réunion ministérielle tripartite tenue en Jordanie. L'Arabie saoudite est désormais sur le point d'accepter les conditions d'Ansar Allah pour mettre fin à la guerre contre le Yémen à tout prix. Après des années de résistance, il contrôle la plupart des régions clés du Liban, aura indiqué le quotidien arabe en ligne Ray Al-Yaoum, faisant allusion au mouvement yéménite Ansar Allah. L'Arabie saoudite a accepté de tenir un dialogue formel avec Ansar Allah à Oman pour mettre fin à la guerre du Yémen. Ansar Allah a appelé l'Arabie saoudite à quitter le Yémen et ouvrir l'aéroport de Sanaa et le port de Hudaïda, à reconstruire le pays en ruine, à payer les dommages causés par la guerre. Ce sont des questions auxquelles Riyad s'opposait jusqu'à présent. Mais après sa cuisante défaite au Yémen, ses dirigeants sont désormais sur le point d'accepter ces conditions et veulent à tout prix mettre fin à la guerre. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le bilan de l'attaque terroriste contre l'armée malienne s'alourdit avec 16 soldats tués. Le bilan de l'attaque terroriste mercredi contre l'armée malienne dans le centre du pays s'alourdit à 16 soldats tués et 9 blessés, ont indiqué les forces armées maliennes sur leur site officiel. Suite à l'attaque complexe terroriste perpétrée aux environs de 11h25, c'était en fait mercredi, contre un convoi des forces armées maliennes sur l'axe routier Bandia, Gara et Koro, le bilan côté des forces armées maliennes a évolué. Nous déplorons 16 morts et 9 blessés, a déclaré l'armée en ajoutant que toute la nation malienne salue la bravoure de ses vaillants militaires. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin notre journal d'information. Nous allons rester avec nous. Nous allons vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Le régime saoudien acceptera-t-il les conditions du mouvement de la résistance yéménite Ansar Allah? Ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. L'Arabie saoudite est désormais sur le point d'accepter les conditions d'Ansar Allah pour mettre fin à la guerre contre le Yémen à tout prix. Après des années de résistance, le mouvement yéménite d'Ansar Allah contrôle la plupart des régions clés du Yémen, a indiqué le quotidien arabe en ligne Raya Al-Yawm. L'Arabie saoudite a accepté de tenir un dialogue formel avec Ansar Allah à Oman pour mettre fin à la guerre au Yémen. Ansar Allah a appelé l'Arabie saoudite à quitter le Yémen et à ouvrir l'aéroport de Sanaa et le port de Hudaïda, à reconstruire le pays en ruine et à payer les dommages causés par la guerre. Ce sont des questions auxquelles Riyad s'est opposé jusqu'à présent. Mais après ça, des cuisantes défaites au Yémen, ses dirigeants sont désormais sur le point d'accepter ces conditions et veulent à tout prix mettre fin à la guerre. Auparavant, l'Arabie saoudite demandait à Ansar Allah de rompre ses liens avec l'Iran, mais maintenant Riyad cherche à en fait renoncer à renforcer ses liens de toutes les manières possibles avec l'Iran, qui négocie avec Riyad certes, mais à qui ce dernier demande sa médiation auprès d'Ansar Allah. On parle désormais d'éliminer Hadi, président démissionnaire en fuite pro-saoudien, de la scène par Riyad, car il n'a pas beaucoup d'options. Il devra accepter les conditions d'Ansar Allah, car Khebd El ne pourra plus exercer sa pression par le biais des forces pro-Hadi. Tout porte à croire que le dialogue d'Ansar Allah avec l'Arabie saoudite se fait au détriment du gouvernement de Mansour Hadi et au profit de la résistance yéménite. Ansar Allah, qui a fait preuve de résistance au cours de ces dernières années, en récoltera les fruits. Une fois la guerre terminée, Ansar Allah prendra des mesures politiques pour créer une ouverture et amener à la réconciliation au Yémen. Il deviendra une puissance dominante dans le nord du Yémen, affirme Raya Al-Yawm, qui n'écarte même pas un retrait au moins partiel des forces US OTAN du Yémen. Raya Al-Yawm précise: l'armée yéménite a opté pour une solution asymétrique très peu abordée ces dernières années par les analystes des sites militaires fortifiés dans les montagnes. Et le journal de poursuivre, l'armée yéménite a investi les grottes et créé des villes en montagne afin de parachever le processus d'industrialisation militaire, notamment celle liée à la fabrication et au développement des missiles, où le processus est mené de A à Z par des spécialistes yéménites, dont le nombre serait environ 1700, tous ingénieurs et experts issus des universités yéménites. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Le chef du conseil exécutif du Hezbollah libanais, Hashem Safiuddin, a déclaré il y a quelques jours que le Hezbollah n'a pas pris encore la décision de lancer la bataille de sortir les États-Unis de l'appareil d'État libanais, et lorsque le jour viendra, les Libanais verront quelque chose de nouveau. Toujours, ce haut responsable de la résistance libanaise a précisé, les Américains exercent un grand impact sur le Liban, sur les plans sécuritaires, politiques, financiers et économiques. Ils sont puissants au sein de l'État libanais. Ils y ont beaucoup d'agents. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore décidé de mener la bataille de sortir les États-Unis de l'appareil
vis-à-vis de l'État. Mais lorsque le jour propice viendra pour lancer cette bataille, les Libanais verront quelque chose de nouveau. Dans une autre partie de ses propos, ce haut responsable du Hezbollah libanais, tout en faisant allusion à l'envoi des pétroliers iraniens transportant du pétrole vers le Liban pour le peuple libanais, tout en y faisant allusion, ce haut responsable libanais a déclaré : les Israéliens ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire avec les navires que l'Iran envoie au Hezbollah. La raison en est qu'ils ne veulent pas que le Hezbollah entame l'équation de guerre des mers, ce qui illustre un point de faiblesse israélien. Israël sait très bien que nos missiles peuvent atteindre les zones les plus éloignées au cœur des territoires palestiniens occupés et par conséquent, nous étions capables d'empêcher n'importe quel navire d'Amarie à Akka, à Haïfa et à Tel Aviv ou ailleurs, nous sommes entrés dans cette bataille pour envoyer un avertissement que nous avions franchi vers une nouvelle étape à marteler le chef du conseil exécutif du Hezbollah libanais. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, maître Arnaud Devollet. Maître Devollet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous et bonjour à votre invité, toujours un plaisir.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, maître Devollet, c'est un très bon connaisseur des questions relatives au Liban, à la région du Moyen-Orient. C'est une géopoliticienne libanaise spécialisée des questions internationales. Il s'agit de madame Ghadda Houballah. Madame Houballah, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vos téléspectatrices et merci de m'avoir invité. Et également un bonjour à votre invité, monsieur Arnaud.
Merci infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation, madame Houballah. On va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet, madame Houballah, ces récents propos de ce haut responsable de la résistance libanaise. Comment vous les évaluez, madame Houballah ? Quelle en est la portée et l'importance, s'il vous plaît ?
Alors, il s'agit de M. Hacheb Safidi, qui est le chef du conseil exécutif du Hezbollah, qui est beaucoup plus important que le vice-secrétaire général, le vice-secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Asim. C'est véritablement lui le numéro 2 du Hezbollah. Donc, quand Cheikh Hacheb Safidi ou Saïd Hacheb Safidi s'exprime en ses propos, c'est-à-dire déclarant que le Hezbollah n'a pas encore pris la décision de lancer la bataille, de sortir les États-Unis de l'appareil d'État libanais. Bon, deux lectures se sont imposées au lendemain de ses propos. Une lecture qui était contre le Hezbollah, c'est-à-dire, bien entendu, une lecture qui émane de ceux qui sont alliés aux États-Unis et qui considèrent que le Hezbollah a adressé une menace directe à l'armée libanaise, plus précisément au chef du commandement de l'armée libanaise. Et la deuxième lecture, qui est une lecture beaucoup plus objective, à mon avis, se résume au fait que, en fait, pour la première fois, le Hezbollah a adressé une menace aux États-Unis en leur demandant, de manière polie, entre guillemets, de cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures du pays au niveau sécuritaire et pas seulement au niveau économique ou bien au niveau politique. Donc c'est la première fois que le Hezbollah attire l'attention de l'opinion publique et libanaise et arabe que les États-Unis s'ingèrent dans les affaires sécuritaires du pays, dans certains appareils, à travers certaines personnes. Donc il ne s'agit pas en fait de remettre en question l'appareil sécuritaire ou les institutions sécuritaires et militaires du pays. Il s'agit juste de pointer le doigt contre l'ingérence des États-Unis à l'intérieur de ces appareils sécuritaires. Et cette ingérence, le Hezbollah a décidé justement de mettre un terme, d'y mettre un terme, parce que cette ingérence dans le passé, surtout après l'assassinat du premier ministre Rafiq Hariri, a déstabilisé et le pays et la région. Je fais allusion à la guerre en Syrie. Donc, c'est ainsi qu'on peut lire justement les propos de Saïd Hachem Safaïdine.
Madame Oubala, comment ces propos ont été conçus, perçus sur le plan de la politique intérieure libanaise? Vous êtes à Beyrouth et vous avez suivi en fait de près ces récentes évolutions.
En effet, comme je vous ai dit, la première lecture, c'était une lecture qui émanait de la part des alliés, c'est-à-dire des forces politiques qui sont alliées aux États-Unis et qui sont connues comme les forces libanaises, le parti des phalanges et autres. Donc en fait, la lecture, surtout les médias, il y a trois médias qui ont estimé que le Hezbollah était en train de menacer en fait l'armée libanaise, ce qui est tout à fait hors propos, puisque la réaction justement de l'armée, de certains observateurs ou même de certaines forces politiques qui sont alliées au bloc du 8 mars, ils ont oublié en fait que trois points. Le premier point, c'est que le Hezbollah estime que l'équation d'or qui a permis à la résistance islamique à faire face à la guerre, à la deuxième guerre israélo-libanaise en 2006, c'était une équation qui était formée du peuple, de l'armée et de la résistance, premièrement. Deuxièmement, avant que cette équation s'impose en 2006, nous rappelons qu'en durant les années 90, plusieurs incidents ont éclaté entre l'armée libanaise et justement pas la résistance en tant que branche armée, mais entre la population qui représente le Hezbollah, c'est-à-dire l'armée libanaise a tiré sur une manifestation qui était une manifestation dirigée par le Hezbollah, durant laquelle plusieurs martyrs sont tombés, dont des femmes. Et là aussi, aucune réaction, aucune riposte de la part du Hezbollah contre l'armée. Il ne faut pas oublier aussi, récemment, la deuxième libération du Liban. Je dis deuxième parce que c'est ainsi que le Hezbollah l'a désigné, des takfiristes, où le sang s'est mêlé entre le Hezbollah, l'armée libanaise et l'armée syrienne aussi. Et donc là aussi, il y a eu une coopération militaire à très haut niveau, une coordination des forces armées. Et donc c'est tout à fait hors propos d'accuser justement les propos de Saïd Hachem Safaïdine comme étant une menace dirigée contre l'armée libanaise ou contre le Hezbollah. Mais ceci a été malheureusement exploité justement pour toujours défigurer ou déformer cette relation qui unit le Hezbollah et l'armée libanaise.
Merci.
D'ailleurs, juste un dernier point sur ce point. Il faut rappeler que souvent le secrétaire général du Hezbollah a réitéré à maintes occasions que nous n'avons aucun problème que les États-Unis puissent aider l'armée libanaise, mais qu'on lui offre à l'armée libanaise des armes de dissuasion véritables et non pas des armes complètement désuètes. Et donc, si vous voulez vraiment aider l'armée libanaise, aidez-la, mais en lui offrant véritablement des armes dissuasives qui puissent faire face aux agressions israéliennes. Voilà.
Maître Arnon Redevelé, vous venez d'entendre, madame Qadda Houballa, des géopoliticiennes libanaises, des spécialistes des questions internationales. Selon madame de Houballa, il est question désormais pour la résistance libanaise et le Hezbollah d'en découdre avec ces ingérences américaines, ces agissements américains. Votre analyse, s'il vous plaît.
Écoutez, je m'inscris totalement dans le prolongement des remarques Madame Houballa. J'ajouterais qu'une autre partie des propos du chef exécutif du Hezbollah portait sur la déférence accordée au nouveau Premier ministre et à son cabinet. Donc dans ce sens, le Hezbollah, au travers de cette intervention, se veut un parti, encore une fois, qui est une partie intégrale du paysage politique libanais, qui respecte les institutions et qui donne la possibilité aux institutions de fonctionner, pour peu que, encore une fois, et c'est l'objet des propos du chef exécutif du Hezbollah, les interférences américaines ne produisent pas des blocages. Maintenant, pour ce qui porte sur le sujet de fond, à savoir cet avertissement solennel, effectivement, un peu nouveau en soi, puisqu'on avait plutôt tendance à se focaliser sur l'ennemi sioniste, mais je pense que le Hezbollah comprend parfaitement et a besoin maintenant de communiquer sur le sujet auprès de la population que l'ennemi sioniste bénéficie du soutien de son parrain américain et que la moitié des revendications et des outrances et de ce qui peut être mis en œuvre et tenté par le gouvernement sioniste n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas ce soutien. En ce sens, c'est un pas qualitatif pour l'instant qui en est à une forme de constat, mais qui prépare probablement le terrain pour des dossiers qui pourraient surgir dans un futur plus ou moins proche et qui sont des lignes rouges pour le Hezbollah, à savoir, bien sûr, non seulement la dispute maritime qui porte sur l'exploitation des gisements gaziers au large des côtes, mais aussi et également la dernière nouvelle qu'on a pu entendre qui sous-entendrait, supporterait que Tel Aviv commence maintenant à faire appel à une société ô combien connue et réputée pour vivre des malheurs des peuples, à savoir la société Halliburton. Et dans ce contexte-là, le Hezbollah a déjà été très très clair. Il ne tolérerait en aucun cas l'installation ou en tout cas la prise de contrôle de quelques puits, quelques gisements de gaz naturel qu'il soit, avant que la dispute maritime ne soit résolue selon des termes qui correspondent au droit maritime tel qu'il est pratiqué de manière consensuelle par les États et non pas par une forme d'interprétation unilatérale par les Israéliens. Et deux, sans que une société connue pour avoir profité des interventions militaires dans la région, des interventions militaires américaines dans la région, ne soit impliquée effectivement dans cette exploitation à venir.
Madame Roubala, je viens en fait de le dire tout à l'heure au début de mission, M. Safieddine a fait allusion également à cette coopération pétrolière entre l'Iran et le Liban, l'envoi des navires pétroliers iraniens vers le Liban. Il a dit que voilà, les Israéliens n'ont pas osé attaquer ces navires parce qu'ils savaient qu'en cas d'une intervention militaire, les de ports israéliens Tel Aviv, Haïfa et Akka seraient ciblés. Il s'agissait également d'un avertissement fort transmis au régime israélien comme quoi, en fait, la résistance a les moyens de sa politique en même temps face aux États-Unis et également au régime israélien. N'est-ce pas, Madame Oubala?
Oui, tout à fait, mais il faut rappeler aussi que les propos de Saïd Hichem Safieddine s'inscrivent dans ce qu'avait auparavant déclaré le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, quand il a annoncé justement qu'il avait pris la décision de demander de l'aide aux Iraniens et que justement les cargos, ou plutôt les navires pétroliers transportant et le diesel et le pétrole iranien traverseront justement toute la mer, ce qui était en soi un défi, et qu'il avait bien souligné que ces pétroliers je traduis littéralement, sont une terre libanaise. Autrement dit, ils sont sous la souveraineté libanaise. Autrement dit, toute agression contre ces pétroliers aura donc pour conséquence une riposte de la part du Hezbollah contre justement l'entité sioniste. Et donc, le Sayed Hachem Safidi ne vient que... En fait, il réitère ce qu'avait auparavant... annoncé le secrétaire général du Hezbollah. Et au niveau de la géopolitique régionale, ni les États-Unis ne sont prêts à soutenir l'entité sioniste dans tout acte d'agression contre justement le Hezbollah ou contre ses pétroliers. Parce que justement, ils sont beaucoup plus préoccupés à se repositionner dans la région à travers leur retrait en Afghanistan, mais aussi ils sont en train de prendre en compte les relations bilatérales qui sont en train de elles n'ont pas repris, mais il y a un début de normalisation entre la Syrie, l'Arabie Saoudite et l'Iran, et parallèlement un repositionnement des forces régionales dans la région. Et tout simplement, cela sert les intérêts des États-Unis qui se résument dans une seule stratégie, à savoir faire face à l'ennemi numéro un que Biden avait nommé étant la Chine. Donc la préoccupation première pour les États-Unis en termes de politique étrangère et en termes de relations internationales, c'est comment faire face à la Chine qui représente une menace directe, non pas aux intérêts commerciaux des États-Unis, mais à la présence même des États-Unis en tant que superpuissance mondiale. Et ensuite, au deuxième rang, vient la Russie. Donc, où est l'Iran là-dedans? Où est la région? Où est le Moyen-Orient? Etc. Donc, tout cela, ce sont des détails par rapport à la stratégie des États-Unis, de Biden plus précisément. Et donc, bien entendu, l'entité sioniste n'a pas ni le feu vert, ni encore les moyens militaires pour justement pouvoir mettre un terme ou bombarder ces pétroliers. Et n'oublions pas aussi que dans la dissuasion maritime, en 2006, le Hezbollah a imposé un équilibre pas seulement au niveau terrestre, mais au niveau maritime, puisqu'il a tiré un missile sol-mer contre justement un destroyer israélien. Et la bataille maritime s'est terminée là.
Maître de volée, Madame Oubala, en fait, soulève un point très très important. En 2010, le Hezbollah libanais a imposé un équilibre non seulement au niveau terrestre, mais également au niveau maritime dans cette bataille contre Israël. Venez vous-même faire allusion à l'enjeu d'énergie, si vous voulez, en ce qui concerne les relations entre le Liban et les États-Unis également au niveau régional. Madame Oubala parle en fait d'un repositionnement des forces du champ de la politique étrangère donne désormais en fait des priorités trop des enjeux comme la Chine et la Russie selon Madame Roubala. Alors, Maître Develé, le Hezbollah libanais dans l'état actuel des choses est également capable d'imposer, si vous voulez, son équation au niveau régional en ce qui concerne l'énergie également auquel venait de faire allusion, notamment dans la région de Méditerranée, n'est-ce pas, Maître Develé?
Oui, absolument, mais le Hezbollah est une organisation extrêmement bien huilée, parfaitement au courant de tous les dossiers, les dossiers bien sûr nationaux à l'intérieur du Liban, mais aussi régionaux et maintenant de plus en plus à l'international. Je rappellerai pour nos téléspectateurs que en mars dernier, une haute délégation du Hezbollah s'est rendue à Moscou et que les discussions sur place ont abouti à l'annonce de l'ouverture d'un bureau permanent. Donc Moscou apprécie et respecte énormément la résistance libanaise, comprend parfaitement que rien ne se fera tant au niveau libanais qu'au niveau régional, mais de plus en plus maintenant au niveau international, sans la participation intégrale et l'intégration dans une vision commune de cette vision eurasiatique qui émerge du Hezbollah, c'est évident. Maintenant, là où j'aurais tendance à un petit peu diverger quant à aux motivations ultérieures des Américains, portant plus précisément sur leur désir de retrait de l'Asie occidentale, je pense qu'il faut regarder les choses plus dans le contexte de l'émergence du bloc eurasiatique. Certes, nous entendons beaucoup parler de la Chine comme étant le nouvel adversaire stratégique des États-Unis, et cela a été repris par les papiers blancs du Pentagone, hein, publiés encore au mois de janvier dernier. Mais la Chine, dans sa vision donc dite des nouvelles routes de la soie, s'étend, a vocation à s'étendre au moins jusqu'en Asie occidentale, voire même en Europe, parce que certains pays européens ont exprimé leur désir de participer aux routes de la soie. Et dans ce contexte-là, je ne pense pas qu'on puisse penser que les États-Unis vont, et ce à la suite de l'annonce de cette alliance tripartite la semaine dernière entre l'Australie, le Royaume-Uni et donc les États-Unis, à la porte même de la Chine, alors que
Maître de Volée, puisque nous arrivons à la fin de notre émission et vous évoquez, si vous voulez, ce point sur lequel vous êtes en désaccord avec Mme Oubala, on va avoir la rapide réaction de Mme Oubala également. En une minute, Mme Oubala, s'il vous plaît.
Non, je suis plus ou moins d'accord avec M. Arnaud dans le sens où si on... En fait, il y a deux représentations géopolitiques. Il y a la représentation géopolitique des États-Unis par rapport à la Chine et il y a la représentation géopolitique de la Chine par rapport à la route de la soie. Donc, les deux sont différentes. Ce que M. Arnaud a pointé, c'est la représentation géopolitique de la Chine vis-à-vis de la route de la soie.
Merci beaucoup.
Et donc... Voilà.
Merci beaucoup, Madame Rada Oubala, géopoliticienne libanaise, spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Beyrouth. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître Arnaud de Volée, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré son homologue russe à Moscou. Il s'agit de sa première visite officielle dans le pays depuis sa nomination à la tête de la diplomatie iranienne, effectuée à l'invitation de Sergei Lavrov. Les liens entre Téhéran et Moscou, la question de l'Afghanistan, l'accord sur le nucléaire de 2015 et les évolutions dans le Caucase du Sud étaient à l'ordre du jour de la rencontre entre les deux parties. Le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé l'espoir que Téhéran et Moscou utiliseraient leur potentiel pour préserver la stabilité dans la région. Dans le contexte de récentes évolutions dans le Caucase du Sud, comment expliquez-vous les objectifs de cette visite ? Décryptage avec notre géopoliticien Luc Michel.
C'est un dossier qui est essentiel. On s'oriente d'une alliance régionale en Syrie entre l'Iran et la Russie. On s'oriente vers une alliance globale. Les deux pays se sont étroitement rapprochés. Et ils sont maintenant liés dans une alliance globale qui concerne 5 dossiers. Tout d'abord, il y a le dossier du nucléaire iranien, dans lequel Moscou a apporté son total appui à l'Iran et pour déjouer les manœuvres américaines, françaises et britanniques. Secondement, il y a le dossier de l'entrée de l'Iran qui est entré comme membre de plein exercice dans l'Organisation de coopération de Shanghai. Le groupement géopolitique dont Moscou et Pékin sont les deux leaders et qui vont faire de Téhéran la troisième capitale directrice de l'Eurasie en marche. C'est très important. L'Iran, qui est la porte d'entrée de l'Organisation de coopération de Shanghai sur l'Afrique et la Méditerranée. Il y a un troisième dossier, évidemment, c'est celui de la Syrie. Il est important parce que ça fait des années que les Israéliens essayent de pourrir la relation entre Moscou et Téhéran en annonçant notamment de faux dossiers, de fausses fâcheries entre Moscou et Téhéran. Tout cela n'a pas marché, au contraire. Moscou s'est rapproché de Téhéran. Aujourd'hui, Israël essaye encore un nouveau dossier. C'est de profiter du rapprochement de la Syrie avec des États arabes, notamment la Jordanie, pour proposer aux Russes, par exemple, une augmentation de son rôle au Proche-Orient, à condition qu'ils lâchent l'Iran en Syrie. Il n'y a pas de chance que cela arrive, puisque l'alliance entre Moscou et l'Iran et Téhéran, elle est stratégique en Syrie. Enfin, il y a un quatrième dossier qui est le dossier du Caucase, notamment du contentieux du front entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan s'est étroitement rapproché d'Israël et est en train de se réarmer avec l'aide de l'armée israélienne et également de la seconde armée de l'OTAN, qui est l'armée turque. Les délégations de l'Azerbaïdjan contre Téhéran, qui expliquaient que c'était des inventions iraniennes, ont été démenties par la propagande azérie elle-même, puisque le président de l'Azerbaïdjan y parade aujourd'hui devant des armements de pointe israéliens. Le dossier, évidemment, il s'inscrit face à l'Iran, puisque l'Iran, au contraire, vient de nouer des relations militaires avec l'Arménie et va notamment déployer des conseillers militaires. Ça va également renforcer les relations avec Moscou, puisque les Russes sont déjà présents en Arménie et que l'Arménie fait partie, avec la Russie, le Bélarus notamment, de l'organisation du traité de sécurité collective, qui est une espèce de petite contre-OTAN à l'intérieur de l'Organisation de coopération de Shanghai, puisqu'elle n'unit pas tous les membres de l'OCS, mais uniquement un certain nombre d'anciennes républiques soviétiques autour de Moscou. C'est donc très important, puisque l'Arménie va servir de trait d'union avec l'Iran pour une orientation militaire de l'Iran vers l'OCTS et qui devrait à terme déboucher sur la constitution non plus de l'OCS telle que maintenant, en alliance géopolitique et économique, mais en alliance militaire, réellement une contre-OTAN globale. Enfin, il y a un cinquième dossier qui unit la Russie et l'Iran. Il ne faut pas l'oublier, c'est le dossier de l'Afrique.
La France et la Grèce ouvrent la voie aux piliers européens de l'OTAN. Conformément à un accord signé par le président français Emmanuel Macron et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, mardi dernier à Paris, s'engage donc à fournir une assistance militaire immédiate à Athènes en cas d'attaque d'un pays tiers, même si ce pays est dans la même alliance, comme par exemple la Turquie, qui est membre de l'OTAN. Cet accord a été surtout décrit comme un premier pas pour que l'Europe atteigne son autonomie stratégique tout en ouvrant la voie aux piliers européens de l'OTAN. Des sources gouvernementales ont déclaré que la Grèce recevra également 3 frégates Bel Ara et une option pour une 4e en un temps record, avec un équipement complet de défense aérienne et de lutte anti-sous-marine, avec la capacité d'abattre des cibles aériennes à de grandes distances. Les frégates, avec leur système d'armes de haute technologie et à longue portée, agiront comme un multiplicateur de puissance en mer Égée et en Méditerranée orientale, car en plus de leur capacité accrue, elles seront entièrement compatibles et capables de coopérer avec les rafales. Selon des responsables gouvernementaux, le gouvernement grec est en train de doter la marine grecque d'équipements tournés vers l'avenir, puisque les 3 frégates, avec une option pour une 4e, sont proposées à la Grèce au meilleur prix, entièrement armées et avec un délai de livraison record. La première frégate numérique à la pointe de la technologie devrait être livrée en 2025 et la dernière en 2026, précise le média grec Orthodox Times. Le média rapporte que de cette manière, la sécurité de la Grèce est renforcée, tandis que la Grèce et la France se sont également engagés à travers leur accord de partenariat stratégique qu'au-delà des structures existantes, donc comprenant l'OTAN ou encore l'Union européenne, elles s'entraideront militairement en cas de besoin. Cependant, l'accord bilatéral a également une dimension purement européenne, car il constitue une acceptation de la doctrine de l'autonomie stratégique de l'Union européenne par les 2 pays et constitue un pas essentiel dans cette direction. En effet, comme le Figaro le souligne, au-delà de répondre aux besoins de la Grèce qui renforce son programme d'armement pour contrer les provocations turques dans l'est de la Méditerranée, l'objectif de cette manœuvre est, comme l'a indiqué Emmanuel Macron, d'appeler les Européens à montrer qu'ils ont aussi la puissance et la capacité à se défendre, permettant, selon le président français, de vanter l'Europe de la défense. En substance, la Grèce et la France, avec un accord bilatéral garantissant la coopération des 2 pays en matière de défense et de politique étrangère, agissent dans le cadre de leurs alliances pour renforcer la politique d'autonomie stratégique de l'Union européenne et approfondir leurs relations au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. La mise à disposition de 3 corvettes Gowind modernes avec un équipement complet est également sur la table. La Grèce a agi rapidement et a obtenu une très forte coopération en matière de défense après les changements apportés par l'accord AUKUS. Observateur Continental a déjà informé ses lecteurs sur la perte du contrat français avec l'Australie. La France, donc, semblerait tenter de se refaire une santé dans cette nouvelle vente avec Athènes, surtout juste avant la présidence française de l'Union européenne. Plus précisément, la Grèce va acquérir 3 frégates FDIHN avec une configuration choisie par la marine grecque qui est plus forte que la correspondante française. Le navire appartient à la prochaine génération de frégates numériques et est équipé du meilleur radar Seafire. Ce dernier est associé au missile antiaérien Aster 30 à la pointe de la technologie dans leur dernière version et la combinaison Seafire-Aster 30 offrira donc une défense aérienne de zone aux unités de flotte à des distances supérieures à 100 km tout en disposant de capacités antibalistiques. Autrement dit, pour la première fois de son histoire, la marine grecque va se doter de navires qui pourront abattre des cibles aériennes de très loin tout en pouvant donc aussi offrir une protection contre les missiles balistiques. Les navires de 4600 tonnes pour plus de 120 mètres de long équipés de radars ultramodernes fournis par Thales sont évalués à 3 milliards d'euros, donc 5 milliards avec les 3 Gowind. Ils seront construits donc en France, à Lorient, dans la Naval Group, informe le site Econostrum, expliquant que face aux tensions avec la Turquie dans l'est de la Méditerranée, Athènes a décidé de renforcer son programme d'armement. Le site spécialisé dans l'actualité économique en Méditerranée rappelle que dans le cadre d'un partenariat stratégique plus global entre les deux pays, la Grèce avait déjà commandé en septembre 2020 18 Rafales plus une option sur 8 supplémentaires pour une facture de 2,5 milliards d'euros. Et avait déclaré donc au début du mois de septembre 2021 vouloir en acquérir 6 autres. Pour Euractiv, cet accord de la France et de la Grèce a une signification pour l'autonomie stratégique de l'Europe dans son ensemble. L'article 2 de l'accord prévoit que les parties se prêtent mutuellement assistance avec tous les moyens appropriés dont elles disposent et, si nécessaire, en recourant à la force armée si elles constatent conjointement qu'une attaque armée a lieu contre le territoire de l'une d'entre elles, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Cette clause d'assistance mutuelle montre la densité et la profondeur du partenariat stratégique que nous voulons établir avec les Grecs, a déclaré le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, dans la conférence de presse du 28 septembre. Selon Françoise Dumas, donc députée du parti La République en Marche, c'est un nouvel acte, une nouvelle étape qui en appelle sans doute d'autres pour conforter l'autonomie stratégique européenne et le pilier européen de l'Alliance Atlantique. Pour Pierre Morcos, chercheur associé au Center for Strategic and International Studies, toujours cité par Euractiv, l'accord est plus que le début d'une nouvelle autonomie stratégique européenne, car il s'inscrit dans la continuité de nombreux efforts portés par la France depuis plusieurs années pour renforcer la crédibilité militaire de l'Europe. Mais comme l'a précisé très clairement le président, ces efforts ne viennent pas en substitution de l'Alliance Atlantique, mais visent au contraire à la compléter et à la renforcer. L'objectif est de construire un pilier européen au sein de l'OTAN, a confirmé Morcos, précisant que le président Emmanuel Macron a d'ailleurs souligné que les États-Unis demeureraient un allié historique et majeur de la France.